Je vous invite à écouter la lecture de trois textes de la Bible. Tout d'abord, dans le livre de Josué, chapitre 24, versets 11 à 13. C'est Dieu qui parle. Vous avez passé le Jourdain et vous êtes arrivé à Jéricho. Les maîtres de Jéricho vous firent la guerre. L'Amorite, le Périzite, le Cananéen, le Hittite, le Girgashite, le Hivite et le Jébusite. Mais je les livrai entre vos mains. J'envoyais devant vous les frelons qui les chassèrent loin de vous, les deux rois des Amorites. Ce ne fut ni par ton épée ni par ton arc. Je vous ai donné un pays où tu n'avais pas peiné, des villes que vous n'aviez pas bâties et dans lesquelles vous habitez, et des vignes et des oliviers que vous n'aviez pas plantés et dont vous en mangez les fruits. Seconde lecture dans l'évangile de Marc, c'est un des textes recommandés ce jour. J'essaie toujours d'en prendre un. Alors, chapitre 9, versets 30 à 37. Parti de là, il traversait la Galilée, et Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples et leur disait : Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, ils le tueront, et lorsqu'il aura été tué, trois jours après, il ressuscitait. Mais ils ne comprenaient pas cette parole et craignaient de l'interroger. Ils allèrent à Capharnaüm. Une fois à la maison, Jésus leur demandait : De quoi discutiez-vous en chemin ? Mais ils se taisaient, car en chemin, ils s'étaient querellés pour savoir qui était le plus grand. Jésus s'assit et il appela les douze. Il leur dit : Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Et prenant un enfant, il le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir embrassé, il leur dit : Qui accueille en mon nom un enfant comme celui-là, m'accueille moi-même. Et qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Troisième lecture qui va faire l'objet de la méditation tout à l'heure, c'est dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. Vous allez reconnaître, parce que c'est très connu, c'est ce qu'on appelle la parabole des talents. Il ne faut pas hésiter parfois à affronter des textes un peu complexes. En effet, il en va comme d'un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit 5 talents, à un autre 2, à un autre 1 seul, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui des 2 talents en gagna 2 autres. Et celui qui n'en avait reçu qu'un, s'en alla creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, arrive le maître de ces derniers et il règle ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança en présentant 5 autres, en disant : Maître, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres talents que j'ai gagnés. Son maître lui dit : C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, sur beaucoup je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. Celui des 2 talents s'avança à son tour et dit : Maître, tu m'avais confié 2 talents. Voici 2 autres talents que j'ai gagnés. Son maître dit : C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, sur beaucoup je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. S'avançant à son tour, celui qui avait reçu 1 seul talent dit : Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé. Tu ramasses où tu n'as pas répandu. Par peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ton bien. Mais son maître lui répondit : Mauvais serviteur, timoré, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je ramasse où je n'ai pas et que je ramasse où je n'ai rien répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers. À mon retour, j'aurais retrouvé mon bien avec un intérêt. Retirez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui a dit les 10 talents. Car tout homme qu'il a, on donnera et il sera dans la surabondance. Mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera retiré. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds. Guide-nous par ta parole. Aide-nous à la comprendre tant de siècles après. Et qu'elle éclaire chaque jour de nos existences. La parabole des talents, la dernière, la plus terrible, avant la trahison de Judas et le reniement de Pierre. C'est ainsi que s'exprime Jean Rochefort, qui se sent mourir dans le film Le crabe tambour de Pierre Schoendorfer. Il joue un officier de marine, vous vous souvenez du film, qui, sans une faute sur son passé, il aurait manqué de parole à l'autre officier, le crabe, surnommé le crabe tambour. Alors en effet, cette parabole peut être qualifiée de terrible. Le troisième serviteur, il va finir en enfer, dans les ténèbres du dehors, avec les pleurs et les grincements de dents, sans avoir rien fait de mal, et même en réalité pour n'avoir rien fait du tout. Dans le film, le sens de la parabole est simplifié, la réflexion est centrée sur ce troisième serviteur. Qu'as-tu fait de ton talent ? Alors, le talent, c'est une mesure d'argent. Ça vaut, paraît-il, environ 15 000 euros. Et évidemment, on utilise le terme talent au sens de compétence, aptitude, moralité, qui est évoquée dans le film, un peu simpliste. Il faut exploiter ses dons, ses compétences. C'est pour ça qu'on ne parle que du cas du troisième serviteur et non pas de ce qu'ont gagné les deux autres. C'est évidemment plus compliqué que cela. Les paraboles sont, pour la plupart, très complexes, très compliquées. Lorsqu'elles paraissent simples, il faut se méfier. Jésus l'a dit souvent, en allusion à Ésaïe, « Je m'exprime en parabole de peur qu'ils ne comprennent et se convertissent. » Sous-entendu, avant l'heure de la résurrection, c'est ce qu'on appelle le secret messianique. Enfin, c'est lié au thème du secret messianique, comme lorsque Jésus demande à quelqu'un qui l'a guéri de ne pas aller en parler. Bon, seuls les apôtres, qui sont eux déjà convertis, ont le droit de comprendre, et Jésus parfois leur explique certaines de ces paraboles, qu'ils comprennent d'ailleurs souvent de travers. Et puis, cette explication un peu simpliste n'est pas très satisfaisante. Si quelqu'un a un talent, c'est-à-dire une aptitude à la dissimulation, à la manipulation, à l'escroquerie, est-il bien utile qu'il exerce ce talent ? Oublions le secret messianique, nous sommes déjà convertis en principe, on va essayer de comprendre un peu plus avant. Si cette parabole devait être prise plus ou moins au premier degré, on aurait pu s'attendre à un autre dénouement. Au retour du maître, le premier serviteur, qui était satisfait de ses 5 talents, n'a rien fait, donc exactement le contraire, et le troisième a péniblement obtenu un demi-talent de plus. Le maître, alors, aurait fait donner au troisième les 5 talents du premier. Situation totalement inversée. Ça aurait été redistributif, social, évangélique. Mais c'est trop attendu. Donc ce n'est pas ça. Comment donc approcher cette anecdote surprenante et terrible autrement que comme un précis de gestion financière ? Vous remarquez que la façon dont les deux premiers serviteurs ont doublé leur avoir est à peine mentionnée. On ne sait même pas si c'est de façon honnête. Vous avez noté l'avant-dernière phrase, très étrange, « À tout homme qui a, on donnera et il sera dans la surabondance. Et celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera retiré. » J'y reviendrai parce que cette phrase est très curieuse. Cette sentence évoque des versets un peu ressemblants dans l'Évangile selon Luc. « À qui l'on a beaucoup donné, on redemandera beaucoup. Et à qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. » Jésus et Luc ne radotent pas, il y a deux propositions différentes. Dans un cas, on a donné, et dans l'autre, on a confié en gérance, si vous voulez. Il y a une différence entre un don, un cadeau et un mandat de gestion. Je me demande s'il n'y a pas là une clé pour approcher notre parabole qui n'est pas extrêmement claire sur ce point. Alors, les talents, évidemment, ne sont pas une somme d'argent, ce ne sont pas non plus une compétence, ça représente tout ce que le maître remet. Le maître, c'est Dieu, comme d'habitude. Et les talents représentent tous les dons de Dieu, argent, compétences, mais aussi en outre la vie, le pardon, la grâce. Prenons la première hypothèse. Les talents sont confiés en gérance aux serviteurs. Ils ne sont pas remis pour qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Ils sont remis selon un mandat pour qu'ils les fassent fructifier et les remettent au maître à la fin. C'est tout à fait réaliste, logique et usuel. Tout ce qui nous est donné, nous ne le possédons pas vraiment. Nous ne l'emportons pas au paradis, un linceul n'a pas de poche. Vous connaissez ces expressions. C'est donc là une responsabilité, une charge, une mission. Dès le début, le maître remet des talents à ses 3 serviteurs selon leurs capacités. capacité à gérer, bien entendu. Ce qui prouve que le maître est bon juge des compétences, puisqu'il en a donné moins à celui qui n'en est pas capable. Mais celui qui est en mesure de gérer 5 talents va se retrouver à la fin de l'histoire avec 11 talents à gérer. Les 5 du début, les 5 qu'il a gagnés, et en sus, le talent du mauvais serviteur. Il va falloir qu'il gère plus du double de ce que ses compétences, en principe, lui permettent au début. C'est pas un cadeau. C'est une prime ou une récompense, c'est une charge supplémentaire lourde. Je ne sais pas si c'est l'origine du principe de Peter. Ce premier serviteur va devoir faire bien plus en termes de gestion. Le double de ce qu'il a fait, et en sus ce que le troisième n'a pas fait. Ce n'est pas parce que certains ne font rien, que nous devons les ignorer ou ne pas nous en occuper. Le troisième serviteur n'a rien fait de bien. Le premier va devoir faire ce que le troisième n'a pas fait. Nous devons faire la part de travail, d'action, de ceux qui se laissent aller à la paresse, à la facilité, ou qui sont incompétents ou malchanceux. Dieu nous demande beaucoup. Le mauvais esprit y verrait de l'assistanat. Une remarque incidente sur le deuxième serviteur. On l'oublie souvent, il semble être là pour faire nombre. On a tendance à le négliger entre le premier et le troisième, qu'il arrive quelque chose d'important. C'est un peu comme dans les histoires drôles, vous savez, trois hommes sont dans un bateau, trois hommes sont dans un désert. Il y a toujours celui du milieu qui est là pour rallonger la sauce. Un peu comme Jack et William Dalton, qui sont coincés entre Joe, le petit méchant, et Avrel, le grand bêta. Maurice, qui dessinait Lucky Luke, reconnaissait que parfois il confondait Jack et William, puisque ce sont des personnages qui ne sont que des utilités. Ce deuxième serviteur, pourtant, est intéressant, plus intéressant que cela. Il a reçu 2 talents, il en rapporte 4. Il n'hérite pas du talent du troisième serviteur, puisque c'est le premier serviteur qu'il a. Il n'en est pas moins félicité exactement dans les mêmes termes que le premier. « C'est bien un bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Sur beaucoup, je t'établirai, viens te réjouir avec ton maître. » Pour Dieu, donc, ce n'est pas la qualité qui compte, ce ne sont pas les œuvres, tout bêtement, c'est la qualité, l'effort, l'intention. Prenons l'autre interprétation, les talents sont donnés définitivement en cadeau aux 3 serviteurs. Ça paraît irréaliste, mais vous remarquez qu'à la fin de la parabole, ils ne sont pas restitués. Enfin, si, le troisième le restitue, mais les 2 premiers serviteurs ne semblent pas restitués, ils présentent et ils gardent. Ils gardent les talents qui ont été remis et apparemment ils gardent aussi le fruit de leur spéculation, de leur travail. Le troisième serviteur, donc le mauvais, rend au maître ce qui a été remis. Ben, je crois que c'est ça sa faute, puisque c'est un cadeau de Dieu. Il refuse le cadeau de Dieu, la grâce. Il ne fait rien de mal, mais il ne fait rien de bien non plus. Dieu nous demande d'agir, d'oser prendre part à sa volonté. Il demande d'accepter ses dons, d'en jouir sans culpabilité, de les faire grandir en nous pour qu'il y ait plus à donner à autrui. Vous avez noté l'excuse que présente le troisième serviteur ? Je sais que tu es un homme dur, dit-il au maître, une traduction il y a âpre au gain. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu ramasses où tu n'as pas répandu. Si on garde en mémoire que le maître dans les paraboles, c'est Dieu, ce troisième serviteur blasphème contre l'esprit, ce qui est le seul péché impardonnable, selon Marc. Il sera jeté en enfer dans les ténèbres du dehors, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Ces reproches faits au maître, à Dieu donc, paraissent étranges. Tu moissonnes ou tu n'as pas semé, etc. J'ai trouvé un précédent, je vous l'ai lu, c'est dans le livre de Josué, où l'Éternel se glorifie d'avoir donné à son peuple un pays où tu n'avais pas peiné, des villes que vous n'avez pas bâties et dans lesquelles vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'avez pas plantés et dont vous mangez les fruits. C'est la conquête de Canaan, ça. Dans le livre de Josué, juste après la traversée du Jourdain par l'armée de Josué. On voit que le troisième serviteur a visé juste dans sa description de Dieu, plutôt de sa conception de Dieu, celle du Premier Testament. Dieu, dans cette conception, c'est le Dieu du seul peuple élu. Il leur donne un pays, Canaan. Bon, qui est pris à d'autres. Passe. Bref, le troisième serviteur a refusé le don de Dieu. Il n'a pas fait confiance à Dieu. Foi, la foi étymologiquement, c'est la confiance. Il voit en Dieu un maître cruel et malhonnête. Ce n'est pas la paresse, son péché. C'est le rejet de Dieu. C'est ce qui explique cet étrange verset final. À tout homme qui a, on donnera, et il sera dans la surabondance. À celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera retiré. Comment peut-on retirer à quelqu'un ce qu'il n'a pas? C'est que ce serviteur, il avait quelque chose. Le talent que Dieu lui avait donné. Il n'avait pas compris que c'était un cadeau. Ou alors il n'en a pas voulu. On lui retire ce qu'il avait parce qu'il ne savait pas qu'il l'avait et en tout cas l'a refusé. Donc en effet, on lui retire ce talent. Il ne l'a pas puisqu'il le refuse, mais on peut le lui retirer puisqu'il lui avait été donné. Nous avons tous des talents, des richesses, matérielles ou non. Il faut apprendre à les voir, les reconnaître, construire dessus. Quelle est la bonne analyse? Les deux sont bonnes, bien sûr. Tout ce que nous avons dans la vie constitue à la fois une responsabilité et une grâce. Dans les deux cas, il faut en être conscient et utiliser ce que nous avons dans le projet de Dieu, sa volonté dynamique active, et utiliser ce que nous avons au service d'autrui, dans l'amour du prochain. L'amour du prochain, la redistribution, si vous voulez, c'est pas dans la parabole, c'est vrai. Mais les paraboles ne disent pas tout. Elles sont insérées dans un ensemble, celui de l'enseignement du Christ. Il faut donc savoir extrapoler un peu en les resituant dans les leçons de l'Évangile. C'est ça, accomplir la phrase de Charles Wagner. L'homme est une espérance de Dieu. Dieu nous a confié ou donné. Il espère que nous en serons conscients et redistribuerons à notre tour à nos frères en humanité.